Nous étions à Berne, entre 500 et 800, à une manifestation pour la vie devant le palais fédéral, catholiques, protestants, enfin de toute confession et même peut-être même des non-croyants qui étaient là, des gens qui simplement voulaient affirmer le respect de la vie humaine devant le débat qui aura lieu lundi aux chambres fédérales à propos d'une motion qui est déposée par une parlementaire, Madame Binder, qui propose la légalisation de l'avortement en Suisse. Et le Conseil fédéral avait déjà prononcé là-dessus en disant, 4 contre 3, il rejetait cette proposition avec un contre-projet qui s'approchait un petit peu de la solution des Allemands. Je crois que c'est important de se rappeler régulièrement l'importance de la vie humaine, de se rappeler la beauté de la vie humaine, l'inviolabilité de la vie humaine, la grandeur de la vie humaine, parce que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je crois qu'il y a un cri pour la vie. Si on écoute un petit peu ce que Jean-Paul II nous a dit depuis le départ, c'est un cri pour la vie. Et c'est un cri qui n'est pas simplement le cri du pape et d'un croyant, c'est le cri de toute personne humaine qui ressent dans son âme profonde combien il est important aux yeux de Dieu, combien il est important en tant qu'être humain, la dignité inviolable, unique de chaque personne humaine. Et Gandhi, dans les années 40, comme ça, parler de cette dignité de la personne humaine, crier aussi à l'Inde, mais attention, attention. Tous les raisonnements invoqués à l'appui de la régulation des naissances sont erronés, dangereux. Ces défenseurs soutiennent qu'un homme a non seulement le droit, mais le devoir de satisfaire ses instincts. À mon avis, cet argument est faux. On veut tuer l'Inde, on veut tuer notre pays avec ces méthodes que l'on veut nous imposer comme ça. Voilà, selon moi, l'une des plus dangereuses doctrines qu'on puisse prêcher, surtout dans un pays comme l'Inde, où les hommes de la classe moyenne ont perdu tout bon sens. Il insiste énormément sur ce respect de la vie, cette défense de la vie. C'était le cri qui l'a poussé au fond de chaque personne humaine, un cri prophétique. Et je crois que c'est le cri qu'il faut repousser aujourd'hui. Quand on voit un petit peu ce qui se passe, j'en parlerai un petit peu quelques exemples, on voit vraiment une attaque de toutes parts contre la vie humaine, de toutes parts contre la vie humaine. Et Dieu nous interpelle, nous, chacune, chacun, pour prôner cela. Je ne sais plus qui avait écrit un jour, quand ils ont arrêté des communistes, je ne me suis pas inquiété. Quand ils ont arrêté des chrétiens, je ne me suis pas inquiété. Quand ils m'ont arrêté, il n'y avait plus personne pour s'inquiéter. Jean-Paul II, dans sa lettre sur l'évangile de la vie, nous rappelle que, au fond, l'histoire de l'humanité dans le récit biblique, ce qui ne nous explique pas comment c'est arrivé, mais pourquoi, quel est le sens de tout cela, ça commence par une guerre entre Caïn et Abel. Et Dieu demandera à Caïn, mais qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn répondra, mais suis-je le gardien de mon frère? Dieu lui dit, mais oui, tu es le gardien de ton frère. D'abord, tu l'as tué, tu es responsable de ton frère. Et Jésus reprendra cette même logique dans la parabole du bon samaritain. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Demandaient les juifs à Jésus. Et Jésus leur raconte cette parabole du samaritain, du juif, du lévite, du prêtre, à côté de cette personne blessée au bord de la route, sans s'arrêter, un samaritain qui passe, un étranger, et qui s'arrête. Alors, bien sûr, il y a toute une interprétation théologique sur le salut qui nous est apporté par le Christ, mais à travers ça, il y a quand même une interprétation littérale, où est mon prochain, celui dont je me fais proche. Et donc, c'est pas naturel, j'allais dire, même si c'est dans l'ordre de la nature de l'homme, que d'aimer chacune et chacun, d'être appelé à construire une communauté de vie, les uns avec les autres, d'avoir ce respect pour le plus proche. Il n'est plus tellement naturel aujourd'hui, pour l'homme blessé par le péché, que de reconnaître l'autre comme son prochain. On le voit souvent aujourd'hui comme un adversaire, on le voit souvent comme quelqu'un qui peut m'agresser dans ma liberté, qui peut me déstabiliser, et donc il y a une sorte d'attitude de réserve, de méfiance à l'égard des uns et des autres. Et au fond, cette attitude de spontanéité, de voir l'autre comme un frère, comme une sœur, quel que soit son visage, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa tête, parce qu'ils partagent la même origine et la même destinée, parce que nous faisons partie d'une même famille qu'est la famille humaine, eh bien, c'est pas évident. C'est un acte de volonté qu'il s'agit de poser, un acte d'intelligence qu'il s'agit de poser. Et on voit bien que le débat autour de la vie ne peut donc pas être un débat simplement émotionnel. C'est pas simplement un coup de cœur ou une émotion qui va me permettre de m'approcher d'un autre ou de le reconnaître comme un frère, comme une sœur, quel que soit le visage qu'il a. Qu'il soit déformé, handicapé, qu'il soit petit comme ça dans le sein de sa mère ou même plus petit, qu'il soit âgé, atteint par la maladie d'Alzheimer ou par une artériosclérose qui lui fait perdre la tête. C'est mon regard que je vais poser sur lui, qui va me permettre de découvrir cette personne comme un frère, comme une sœur, comme un prochain.